va se gêner sur Europe 1.
On va se gêner.
Laurent Ruquier.
Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Caroline Diamant. Ouais. Stevie Boulet. Ouais. Florian Gazan. Ouais. Guy Carrier. Ouais. Jérémy Michalak. Ouais. Et Pierre Bénichou. Ouais. Quelle ambiance!
Ah, c'est dingue!
C'est l'ambiance Coupe du Monde.
À part peut-être Pierre Bénichou qui a l'air un peu ronchon. Je vois bien depuis que je suis arrivé aujourd'hui.
Non. Il est très élégant et ultra souriant.
Ah, c'est vrai?
Ah oui. Ça, quand il faut défendre.
Flatté d'être avec vous. C'est ravi. Vrai. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse, que je me mette un bonnet.
Tu reviens?
Pour faire rigoler. Non, ça va.
Non, mais c'est vrai que quand t'arrives et que tu nous dis bonjour les bandes de connards, c'est vrai que ça.
Moi, il m'a dit sale con, j'ai vu qu'il était en forme. Moi, il m'a pas parlé, j'ai trouvé ça normal.
C'est vrai, Pierre, je sens bien que le week-end n'a pas été tout à fait comme vous le vouliez, j'imagine.
Bah non,
il y a des rendez-vous qui ne sont pas venus.
Oh non, j'en suis plus à ce niveau-là maintenant.
C'est vrai.
J'ai perdu 5 membres de ma famille dans l'accident de train maintenant.
Donc, il y avait des trains qui circulaient.
C'est pas de bol.
C'est quand une seule.
Non, mais quand même, vous étiez heureux. On était ensemble pour regarder la France.
Oh, quelle soirée magnifique.
Franchement, contre les Suisses. Et on a vécu tous ensemble, n'est-ce pas?
Une finale mémorable.
C'était pas une finale,
oui,
Stevie.
Je sais, je viens de fourvoyer.
Je viens de fourvoyer. C'est dans quelle région? Je viens de fourvoyer près de Lyon. Stevie, vous étiez quasiment assis sur les genoux de Guy Carrier pour regarder le match.
Entre moi et Ben Guigui.
Ouais, c'est vrai, c'était bien.
En plus, c'était l'anniversaire de Caroline Diamant. Les Bleus lui ont offert 5 buts.
5 buts, alors.
Pour son anniversaire.
Ton anniversaire.
D'ailleurs, merci beaucoup pour vos macarons, Pierre Armé. Ils étaient divins.
C'est vrai, bon, Caroline.
Ils sont déjà dans ton histoire.
Ils ont disparu en un temps très rapide.
Ah bah oui, ils sont déjà à l'étage du dessous. Hein.
Ils sont même près de la sortie. Hein.
Non, mais je vous en prie.
Oh, ils sont déjà sortis.
Je suis une princesse. Je ne
maintenant, ce sont des mon cacamaro de Pierre Hermé.
Ah bah j'ai bien fait de vous remercier. Ah bah oui.
En tout cas, Pierre, je vous ai vu quand même vibrer pendant ce match des Bleus.
Ça me faisait tellement chier, comme elle dit.
Ah tiens.
De vous voir de bonne humeur, j'aurais souhaité la défaite de la France.
Oh. Oh. Il y avait de la marge.
Les buts étaient formidables à chaque fois.
Oui.
On était là, on sautait de joie tous ensemble.
J'aurais bien aimé que la France en prenne plein la gueule.
Pourquoi?
Parce que je suis européen, je ne suis pas patriote.
Mais votre pays a gagné hier.
Mon pays.
L'Algérie.
Mon ex-pays.
Les Fenech.
Le pays dont on m'a mis d'or.
Contre les Coréens, ils ont gagné contre les Coréens.
C'est bizarre qu'il n'ait pas de drapeau algérien ce matin, Pierre.
Oui.
Mais regarde sous sa chemise peut-être. À toi qu'il a Marcel l'Algérien.
Oui.
C'est beau comme nom de Max, ça. Marcel l'Algérien. Non, mais sincèrement, c'est vrai que personne ne se rend compte qu'à l'époque, on se dit est-ce que l'Europe doit être fédérale? C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de nationalité à l'intérieur de ce continent qui doit faire face.
Allez, on commence par des mails. Oh, regarde. Il me parle même plus, juste un regard sur lui.
Pierre, c'est vrai qu'il est peut-être temps de parler à nos auditeurs.
Non, mais une seconde, je finis ma phrase. Cette époque, on demande. On voit à quel point le chauvinisme, petit bourgeois de tout ça. Ah, dis donc. Et la France est meilleure que l'Italie, et l'Espagne, qu'est-ce qu'elle fait, tout ça? Ça n'existe plus, tout ça. Il y a l'Europe.
Oh,
il n'y a plus. Non, mais oui.
Pierre,
mais oui.
C'est un prétexte. Fini. Quand vous avez trifouillé les oies contre, je sais pas, quel bled, c'est pas une haine du village d'à côté.
Si.
C'est...
Le sport et la religion ne produisent que de la haine.
Mais non, là, on est tous heureux.
Pas du tout. Moi, je vous hais. Mais remarquez, je vous haïssais déjà avant.
Didier est au téléphone. Bonjour, Didier.
Oui, bonjour à toute l'équipe. Salut. Salut, Didier.
Vous vouliez revenir sur ce journaliste indépendant qu'on avait eu au téléphone la semaine dernière et qui s'était amusé à peser les kilos de carottes et autres fruits et légumes dans un supermarché, qui s'était aperçu que, en tout cas, dans son cas... Le Parisien avait rectifié en disant quand même que c'était pas la majorité des cas en allant enquêter dans d'autres supermarchés. Mais dans son cas, à lui, le kilo n'était pas tout à fait respecté. Il y avait à peu près 300 ou 400 grammes en moins.
Bah c'est énorme.
C'est énorme.
300 ou 400 grammes par kilo.
C'est beaucoup.
Ah
hein.
Ah oui.
C'est
40%. Que la Villardière a fait la même chose avec la coke dans les boîtes à 100 grammes. Il y a que 900 grammes.
Ouais. Alors non.
On se demande où sont passés les 100 grammes.
Je me demande si vous ne faites pas une erreur.
Non.
Parce que 300 grammes ou 400 grammes sur un kilo.
Ouais. C'est énorme, c'est 30%.
Il faut vraiment. Même ma femme, elle fait pas cette erreur-là.
Elle
est con, la même.
Attention, c'était juste dans son cas, lui, dans un supermarché. Mais vous, alors, comme vous avez entendu ça, vous êtes dit, tiens, il faut peut-être vérifier d'autres choses, Didier.
Oui, alors en fait, je l'avais déjà vérifié l'été dernier.
Allez-y.
C'est le fait d'en avoir parlé, ça m'a fait réagir. Je suis donc dans le sud de la France, on fait récemment des grillades, hein, c'est-à-dire à peu près tous les jours, quoi. Et donc, on avait décidé, lors d'un apéro, de mesurer le papier aluminium, puisqu'on avait vu que sur les paquets de papier aluminium, il y avait marqué 50 mètres.
Mais c'est pas con.
50 avez... mètres environ, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune notion d'environ.
Et vous avez déroulé le papier ?
Alors en fait, on avait un rouleau tout neuf, on l'a déroulé, et feuille à feuille, on a mesuré, et on est tombé pile sur 40 mètres.
40 mètres.
Oh, le fumier !
C'est pas possible.
Le fumier !
Non mais c'est l'alu !
Au lieu de 50 !
Ah non, mais on s'est dit non, on a fait une erreur, c'est pas possible, apéro aidant. On est retourné au supermarché, on a acheté deux autres rouleaux de 50 mètres et un rouleau de 25.
Vous n'êtes pas fait chier.
Attendez, c'est intéressant.
On les a mis à plat.
À plat.
C'est drôle. C'est-à-dire qu'on les a déroulés dans la rue. Donc alors, forcément, il y a eu du monde qui est arrivé, qui nous ont aidés, et on a mis tous les rouleaux à plat, et les deux autres rouleaux de 50 mètres faisaient également 40 mètres.
Oh, mais c'est honteux. Quelle
arnaque. Non, mais que fait que choisir ?
Quelle marque ? Quelle marque ?
Alors, je sais pas. Franchement, je sais pas. On a pris des rouleaux au hasard, quoi, de marques différentes, et on les a déroulés, et puis ils faisaient tous absolument 40 mètres, et le rouleau de 25 faisait 16 mètres.
Vous n'avez pas essayé le PQ, parce que des fois il manque une feuille, ça se trouve, elle devrait y être.
Non, mais on s'est dit, de toute façon, les marques font bien de faire ce genre d'arnaque, entre guillemets, puisque
personne ne vérifie.
Des cons pour aller dérouler un papier d'alu.
Mais c'est vrai. Vous, Didier, mais écoutez, en tout cas, vous avez eu raison. La preuve, c'est que votre enquête va servir à tous les auditeurs d'Europe 1 à qui je demande aujourd'hui de dérouler leur papier alu pour vérifier la longueur.
Non, mais
pas
ça coûte combien le papier alu? Parce que s'il manque 10 mètres, ça fait beaucoup plus cher le papier d'alu. Parce que tu payes pour.
C'est le principe.
Non, mais ça fait combien?
Ça fait 20%.
Non, mais c'est pas ça, mais ça coûte combien?
On t'escroque de 20% sur le prix total.
Personne connaît le prix du papier d'alu.
Excuse-nous, Stevie. Désolé de pas connaître le prix du papier d'alu.
Non, puis excusez-moi, s'il y a bien un truc que t'achètes rarement dans l'année, c'est du papier d'alu.
Non, mais moi,
pas tous les jours.
Pour toutes les grosses dépenses, c'est mon mari.
Vous êtes folle ou quoi? Pourquoi on n'achète pas tous les jours? Vous, parce que vous ne cuisinez pas. Autrement, la majorité des Français achètent très souvent du papier d'alu.
Pas tous les jours. C'est pas.
Mais pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine.
Tes papillotes, comment tu les fais?
S'il y a bien un truc qu'on consomme, moi, je suis un très grand consommateur de papier d'alu.
Prendre du papier cuisson, c'est beaucoup moins dangereux. Le papier d'alu, il paraît que c'est pas bon.
Mais non, mais c'est pour conserver les restes dans le réfrigérateur.
Moi je mets du film étirable.
Mais
avec Caroline, il n'y a pas de reste.
Ils sont bien, ils sont riches.
Tiens, mesure la longueur du rouleau de film étirable. T'arrives déjà pas à le tirer une fois.
Ils sont un peu
les capotes, gamme. C'est pareil. Moi, il m'avait dit 40 cm, je suis pas rentré dedans.
C'est vrai qu'il en manquait un peu.
Tu étais tombé sur ma boîte.
Bon, Didier, vous n'êtes pas le seul à avoir fait des vérifications pendant le week-end. Jacqueline, par exemple, est allée chez Leclerc Saint-Magne de Castillon.
Mais non.
Elle a acheté 1 kg de poisson. Elle l'a pesé sur la balance. Et une fois sur deux, il y avait une différence de 300 grammes entre ce que.
Mais c'est 300 grammes.
C'est beaucoup.
Énorme. Bah, puisque je vous le dis.
Non, d'accord, je vous crois, mais c'est 30%. C'est un peu loin.
Est-ce qu'on pourra envoyer Vermus?
Ah, ben peut-être on devrait aller faire peser Paul Vermus pour voir s'il pèse aussi lourd qu'il le dit.
Caro, si un kilo vaut 700 grammes, c'est bien pour toi quand tu te pèses le matin.
Non, mais non, c'est beaucoup plus léger.
D'ailleurs, on dit 2 kilos.
30 kilos.
On dit 1 kg. J'ai Marion au téléphone maintenant. Bonjour Marion.
Bonjour.
Ah, vous faites un rapport de stage, vous Marion, c'est ça?
Oui, ça y est.
Qu'est-ce que nos auditeurs sont occupés, c'est dingue. Un rapport de stage que vous avez passé où?
Alors, j'ai fait un stage dans un syndicat de vignerons.
Ah oui,
c'est bien ça.
Ça c'est plutôt sympathique.
Ouais. Beaucoup de dégustations, donc assez sympathique.
Mais.
Mais il y a le rapport de stage à rendre qui doit faire minimum 20 pages. Et il faut dire que en fait, j'ai 44 ans et replonger dans l'école à 44 ans, c'est un peu dur.
Et surtout après un stage chez un vigneron.
Et replonger dans l'alcool, surtout à 44 ans.
Exactement.
Mais on vous a évidemment distrait pendant ce rapport de stage, c'est bien ça?
Voilà, la pression montait en me disant est-ce que j'envoie tout en l'air, j'arrête de tout, j'en ai marre. Et puis j'ai entendu votre voix à tous, j'ai dit non, ils sont là, c'est bon, je fais une pause.
Oh bah alors on vous embrasse, merci Marion, c'est très gentil comme témoignage. Rémi maintenant, bonjour Rémi.
Bonjour Laurent.
Alors Rémi, lui, il est canet, il est venu étudier à Paris et on a bouleversé vos études, Rémi.
Oui, c'est ça, je me suis retrouvé sur les... C'est surtout vous, Laurent, qui avez bouleversé mes études. Je me suis retrouvé sur les plateaux de toutes vos émissions télé au Moulin Rouge, à Europe 1.
Non.
Je suis même intervenu dans l'émission Pour tous.
C'est pas vrai.
J'ai eu le privilège de vous faire rire, vous et Caroline Diamant, que je salue.
Et là, vous êtes toujours enfermé dans une loge au Moulin Rouge, c'est ça?
Vous avez pris le bon créneau pour intervenir dans l'émission Pour tous, fallait viser juste.
C'était dans la deuxième, je crois.
Ah oui, vous avez bien fait,
Et je suis même, on voit même dans le documentaire que Gérard Miller a fait sur vous.
Ah bon?
Donc, c'est dire à quel point vous m'avez marqué.
Oh, bah dis donc, il y a quand même une baleine sous caillou là.
Après vos études, vous retournez dans la Sarthe.
Non, d'ailleurs, moi je m'en vais. C'est ça que je vous disais dans mon mail, c'est que ma rentrée à moi aussi, elle est pleine de changements puisque je pars à l'étranger. Alors, je vous souhaitais plein de bonnes choses à vous et le meilleur pour vous.
Et ben nous aussi, on vous souhaite plein de bonnes choses, Rémi. Sylvie, elle nous a écouté aux États-Unis, en Allemagne, où elle vit depuis 13 ans. Elle est dans le public aujourd'hui. Elle est ravie car elle assiste enfin à notre émission. Il paraît qu'elle nous a apporté des boules de Mozart et des spéculatos. C'est comme ça, j'imagine, qu'on dit en Allemagne. Merci Sylvie. Tout ça sera mis en jeu, évidemment, dans un instant, dans le « Qui a le mieux bossé ?»
Europe 1.
On va se gêner. Qui a le mieux bossé?
Je commence par vous, Guy Carlier, puisque vous avez gagné vendredi. Qui sait, peut-être deux victoires consécutives. Si vous me dites, par exemple, quelle manifestation aura lieu à Paris samedi prochain?
La Gay Pride.
Bonne réponse de Guy Carlier. Il est au courant. C'est Stevie qui a dû l'informer.
On y va ensemble.
Il est invité, même.
On y partage un char.
C'est évidemment, vous le savez, Nico Rosberg qui a gagné le Grand Prix d'Autriche en Formule 1, Florian Gazan. Mais quelle est sa nationalité?
Il est finlandais.
Il est allemand. Vous êtes éliminé.
Oh, ah, le plus dur et on l'a baisé.
On l'avait bossé.
Il est allemand, ce con.
Ah, il est allemand, Nico Rosberg. C'est à vous, Jérémy Michalak. Un an après son triomphe à Wimbledon, la jeune retraitée va être ses souvenirs puisque c'est la 128e édition du tournoi qui débute aujourd'hui. Mais qui a gagné Wimbledon chez les femmes l'an dernier?
Je sais pas du tout.
C'est vrai?
Non, je sais pas.
Marion Bartoli.
Ah, elle avait gagné l'année dernière.
Et oui, c'était l'année dernière. Vous êtes éliminé. Pierre Bénichoux.
Yes.
C'est Haïm Korsia qui succède à Gilles Bernheim. Dans quel rôle il a été élu hier à l'âge de 50 ans?
Non.
Question posée au hasard.
Vraiment
au hasard.
Grand rabbin de France.
Grand rabbin de France. Bonne réponse de Pierre Bénichoux. Quelle chaîne info fête ses 20 ans, Caroline Diamant?
En même temps, il y en a trois.
Hein. Oui, c'est vite.
Bah oui, mais c'est une chance sur trois.
BFM TV.
Bah non.
C'était LCI. La chaîne info LCI. Effectivement,
c'est pas de bonne.
Elle n'est pas en clair. Elle n'est pas en numérique.
Ah ben oui, mais moi je pensais que vous parliez de celle en clair.
Oui, tu parles. Vous êtes éliminé.
C'est assez marrant hein, sur LCI. Il y a plein de vidéos qui passent sur les 20 ans, sur les débuts, la création de la chaîne.
C'était une révolution au départ.
Ouais. Et surtout, tu revois tout le monde comme Nico, Gilbolo ou Beaugrand, mais avec des looks mais improbables des 20 ans. C'est assez marrant quoi.
Stevie, c'est à vous. Laurent Hénard succède à Jean-Louis Borloo à la tête du parti indépendant que convoitait aussi. Qui donc? Qui a perdu contre Laurent Hénard?
François Bayrou?
Ah non! Ramayad!
Ramayad!
C'est Ramayad!
Mais oui, c'est vrai!
Elle dit même que la victoire de Laurent Hénard est illégitime! Vous êtes éliminé! Stevie, qui me reste là?
Pas grand
Guy
monde.
Et Pierre!
Guy Carlier contre Pierre Bénichoux! Guy Carlier. Aujourd'hui, François Hollande reçoit l'émir du Qatar, le cheikh Tamine Al Thani. Pour lui vendre quoi?
Oh, il va essayer de lui vendre des rafales.
Bonne réponse de Guy Carlier.
Comme d'hab. Hein.
Vous êtes évidemment, cher Pierre Bénichoux, capable de me rappeler quelle est la capitale du Qatar?
Oh, bah oui.
Oh.
Oh, bah ça, oui.
Il a l'œil vitreux quand même.
L'œil vitreux, ta sœur. Taras.
Il aurait eu toutes les confessions dans ces questions.
Oui, c'est marrant, ouais.
La capitale du Qatar. Ben...
Pensez à un chanteur, Weekend à Rome.
Oh,
oh non.
Ah non, c'est pas ça.
Étienne.
Bah non, Sylvie.
Saint-Étienne.
Bah non, Sylvie. Voilà.
Je te donnerai la
moitié. Dites. Voilà.
Quoi?
C'est rien à dire.
Voilà.
C'était Doha, Pierre Bénichoux. Bah, Doha.
Étienne Doha.
Étienne Doha. Bien connu. Enfin, eh ben voilà. Vous avez été éliminé à cause d'un Doha.
Ouais.
Et c'est Guy Carlier, le grand vainqueur.
Bravo Guy.
Sylvie, qui vient donc d'Allemagne, vous offre ses spéculatos et ses boules de Mozart.
Joséphine voilà. va adorer ah ça, ouais, les boules de Mozart.
Joséphine va adorer. Alexandre, qui doit être dans le public aussi, et qui nous a apporté du vin d'Alsace, hein, un pinot noir. Alexandre dit, on est deux potes, un mec de la Sarthe et un bûcheron hétéro.
Où ça ?
On est fans depuis 15 ans et on se décide enfin à venir assister à l'émission. On adore Stevie et Caroline, la préférée du bûcheron, Caroline. Ah, ah, il y a un bûcheron pour vous, Caroline.
Ah, moi, c'est l'autre.
Il rêve de la découper.
On peut échanger. Je plaisante, les gars. Je prends les deux.
Oh, la gourmande.
La footbox, c'est Marius Bernard, cuisinier en Provence, qui vous offre, avec la cagole de Marseille, la bière du Cabanon, la box apéro pour regarder les matchs. Vous avez 4 bières, la cagole, 4 tartinables, Marius Bernard, et un sachet de toast, Roger. On fait ça pas mal en ce moment pour regarder les matchs de foot. Voilà, vous êtes devant votre écran, hein, vous n'avez pas à cuisiner. Regardez tous les petits toasts grillés, les bières, la cagole de Marseille, le pâté à tartiner sur les toasts.
Oh là là, mon Guy, mon Guy, mon Guy.
Du thon cuisiné pour l'apéritif.
Ah, dans le taxi, ça va y aller. Hein.
Il y a longtemps qu'on n'a pas prononcé mon prénom avec un tel désir.
Ouais, c'est vrai.
Dans un instant, Paul Vermus.
Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le Challenge Vermus.
Bonjour Paul.
Salut Laurent, salut mes amis.
Quel souvenir j'aurais de vous avoir vu devant le match France-Suisse alors que vous n'y connaissiez rien au football.
Oh, il fait chier. Oh, il n'y a pas qu'au foot, hein.
Franchement.
Non, mais je vais vous signaler, le buffet était excellent. Oui. Donc je ne suis pas venu pour rien. Hein.
Ah bah ça c'est
très
sûr.
C'est compliqué pour moi d'aller dans ce quartier des puces, hein. C'est pas simple.
Pas des putes, hein.
Les putes c'est beaucoup plus facile.
Alors il faut le dire, c'était un endroit merveilleux cet endroit.
Ah oui, ma cocotte. Ouais.
C'était joli, hein.
Chez ma cocotte, à Saint-Ouen.
Je vous signale quand même, Laurent, que sur le coup des minuit ou une heure du matin, j'ai fait taxi. Parce que figurez-vous que Isabelle Motreau, elle me dit « je sais pas comment rentrer », alors je lui dis « viens ». Puis ensuite, Daniel Evenou, je sais pas comment rentrer, elle vient. Puis ensuite, Marianne Sergent, j'ai fait...
Oh là là. Sur les trois, il y en a une dans laquelle vous avez su rentrer, vous.
C'est malin, hein.
T'aurais dû les laisser au puce.
Laurent...
Il a fait un coup de trois, salaud. Ouais.
Après tant d'années, vous savez bien qu'on ne touche pas à la vie privée, je peux rien vous dire de ce qui s'est passé.
Non, mais il est très fort, lui.
Paul, puisque maintenant vous connaissez tout au foot, vous allez pouvoir nous faire un point complet sur les 8 poules de la Coupe du Monde. Quelles sont les équipes qui sont déjà qualifiées? Enfin, avant que le prochain match démarre, là, tout à l'heure à 18h, quelles sont les équipes qui sont sûres de finir première de leur poule? Quelles sont les huitièmes de finale les plus probables que l'on verra? Faudra se livrer à quelques pronostics, mais un point complet de la situation. On sait que la France a de fortes chances de tomber contre le Nigeria, voire l'Iran. En tout cas, pas contre la Bosnie, comme l'a dit Raymond Domenech ce matin à un moment donné. Heureusement que Thomas Soto a rectifié un peu plus tard. D'accord, un point sur les différents groupes.
Oui, on rentrera pas trop dans la technique, mais vous allez comprendre beaucoup de choses. Hein.
Et puis alors, le 14 juillet se prépare. Est-ce qu'on va avoir un 14 juillet franco-algérien? Parce qu'on nous dit que l'Algérie aurait confirmé sa venue. D'autres nous disent qu'elle aurait refusé. Il y aurait pour la première fois des militaires algériens sur les Champs-Élysées.
Ah vrai. Non, pas ça.
Ah ben si Pierre.
Des militaires algériens. Pas ça, je pense à nos morts.
Le ministère de l'Intérieur a annoncé que trois soldats algériens viendraient défiler pour la première fois sur la plus belle avenue du monde. Est-ce confirmé, oui ou non, Paul?
Très bien, Laurent.
Tout sur le 14 juillet. Là, vous avez demandé à votre pote...
J'ai un copain qui travaille à El Watan. Déjà, il est très lié avec le ministère de l'Intérieur.
Et Jean-Claude Narcy, vous connaissez bien Jean-Claude Narcy?
Laurent, je peux vous demander... Vous m'oubliez avec Jean-Claude Narcy.
Daniel Leclerc, Jean-Claude Narcy et Balkany, c'est
la crème. J'en ai assez des idées reçues. Qu'est-ce que c'est que ça, vous? Enfin, j'ai rien à voir. C'est des amis, d'accord. Vous êtes trop ironique, Laurent.
Bah, c'est vrai. On me paye pour ça. Le troisième challenge concerne les volcans en activité dans le monde, puisque ce week-end, le Piton de la Fournaise était à nouveau en éruption sur l'île de la Réunion. Ça a duré 24 heures. Ça faisait 4 ans que le Piton sommeillait. Une période d'inactivité longue, mais pas exceptionnelle. Ça arrive souvent que les volcans s'endorment comme ça, et puis un jour...
Le volcan d'Auvergne se réveille.
Mais alors justement, quels sont les volcans en activité? Quels sont ceux qui risquent de se réveiller? Depuis combien de temps sont-ils encore en sommeil? Là encore, un point sur la situation, Paul.
Appel à Rontazieff.
Laurent, je vais vous faire une confidence. Moi-même, je suis un volcan en activité.
Ça va le melon?
Bon. Je crois que la meilleure des choses, Laurent, c'est de se dire à tout à l'heure, parce que là, ça va beaucoup trop loin.
Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai que... Non, mais franchement, vous êtes un volcan, Paul?
Bah oui, oui, un volcan. Oui, si je vous le dis.
Ah, il est emmerdé, là.
Vous avez montré votre Montpellier à qui, alors?
On ne touche pas à la vie privée, combien de fois je vais vous le dire. Ça fait 10 ans que je vous dis qu'on ne franchit pas la ligne jaune.
Allez, vraiment. Whitney Houston sur Europe 1, et on se retrouve tout de suite après. Ah, il est mort.
Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur.
Il est temps de faire connaissance avec Julie et Grégory. Bonjour Julie.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Vous êtes à Landivisiau dans le Finistère. Grégory est à Langres, là où la Seine prend sa source. C'est bien ça Grégory?
C'est ça, tout à fait.
Et oui, un jour je finirai là-bas, c'est toujours ce que je dis. J'ai commencé au Havre, je suis allé à Rouen, Paris. Je terminerai chez vous, Grégory.
Bah oui, bah écoutez, avec plaisir.
Je remonte le fleuve tout doucement, qu'est-ce que vous voulez?
Vous allez passer par Melun quand même.
Julie, que faites-vous à Landivisiau?
Alors, je ne travaille pas sur Landivisiau, je travaille sur Morlaix et je suis esthéticienne.
Esthéticienne à Morlaix?
Esthéticienne à Morlaix. Ça...
Ouais, ça c'est faut faire gaffe.
Je crois qu'il y a un volcan qui vient de s'éteindre.
C'est comme un volcan devenu vieux.
Julie, alors, esthéticienne, comment s'appelle le salon?
LB Institute.
Comment? LB
Institute, oui.
LB, quoi. Comme ça veut dire quoi, LB? Laurent Boyer?
Non, ça veut dire ce que vous voulez, la beauté ou autre.
Ah, la beauté institut, Julie, tout simplement. Là, qu'est-ce à Morlaix.
Qu'est-ce que ça peut vouloir d'autre, dire
non,
d'autre
non.
La Pierre. Bête
non, bien. Non, libertine non,
ou autre chose.
Libertine, libertine. Et vous faites les matins.
Vous faites les hommes aussi?
Pas beaucoup.
Non, faites les femmes surtout. Voilà.
Mais, mais les femmes, vous faites des massages complets ou vous vous arrêtez au maillot?
Mais ça va
En massage du corps, c'est massage complet.
Bronzage?
Non, pas bronzage.
Ah
pas
bon bronzage. Blanchiment de peau?
D'argent.
Non plus.
Épilation?
Non plus.
Vous faites le sillon interfessier?
Je ne sais pas le dire. Dépigmentation anale, mais je ne sais pas.
Mais vous n'êtes pas bien.
Je ne sais pas le dire, mais personne n'est allé jusque-là.
Attends, mais j'ai vu ça l'autre jour, je suis tombé dénu.
Tu regardais
c'est
quoi?
C'est un prospectus.
Oui, non, oui, non, prospectus.
Il y avait écrit blanchiment anal. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie?
Et t'as pas trouvé ça bizarre qu'il n'y en ait que dans ta boîte?
Parce que c'est quoi, alors?
Je sais pas. Alors j'ai demandé à une copine, elle me dit, il y a des femmes qui se font.
Non, 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 des femmes et des mecs. Excusez-moi, Florence Foresti en a parlé dans un spectacle.
Ah bon?
Elle a fait un sketch très drôle. C'est le nouveau truc aux États-Unis. Elle dit de se faire dépigmenter le.
Non, votre vulgarité, j'en ai plein de cul. Voilà.
Sans transition, qu'est-ce que vous avez mangé hier soir?
Non. Passons par le bouquin qu'elle a lu.
J'ai mangé du boudin.
Julie.
Du boudin blanc.
Oh non,
alors, hier soir, c'était des choses très simples, c'était des crudités salades.
Ah, très bien, crudités salades. Il est temps de passer voir du côté de Grégory, qu'est-ce qui se passe à Langres, que faites-vous là-bas?
Je suis contrôleur de gestion dans un établissement public.
Ah, ça, c'est sérieux, hein, au moins. Et votre dîner d'hier, vous, Grégory?
Alors, hier, pareil, crudité, jambon, repas léger après un bon repas le midi.
Bon, et le midi, vous étiez en famille peut-être pour le dimanche?
C'est ça, en famille, un anniversaire au restaurant.
Ah, c'était joyeux tout de même.
Ah bah oui, bah complètement, ah bah oui.
Non, bah ça avait pas l'air là, comme ça d'un coup.
Ah bah si.
C'était
bien,
c'était bon, anniversaire voilà. De qui? Du beau-papa, de la belle-maman?
La grand-mère.
De la grand-mère, ah, c'est encore pire.
Vous lui avez offert quoi, la grand-mère?
Eh bien, bah, des livres. Parce que,
ça,
voilà,
y fait âge
ça y fait quel âge, la grand-mamie?
84 ans.
Ah oui, quand même.
Ah oui, c'est pour profiter.
Voilà, lecture diverse.
Mais des livres écrits gros, alors?
Non, non, normal. Non, non, elle est encore bien. Non, non, elle est encore en pleine forme.
Oui, elle écoute sûrement. D'ailleurs, on embrasse. Comment elle s'appelle, votre mamie?
Ginette.
On embrasse Ginette.
Voilà des prénoms, voilà. C'est pas Déborah, c'est pas... Ginette.
Un séjour vacances bleues d'une semaine en famille, justement. Ça tombe bien à Aix-les-Bains, l'hôtel club Standing Villa Marliose vous attend pour des vacances nature et bien-être. Des chambres spacieuses, un restaurant panoramique, un espace balnéothérapie, de nombreuses activités... Un séjour en famille pour un moment inoubliable, un spa de 1000 mètres carrés. Vous saurez tout en allant sur le site internet www.vacancesbleues.com. Julie et Grégory, êtes-vous prêts?
Oui.
Qui a fait cette déclaration? C'est une citation. Si j'avais 25 ans, je m'installerais au Brésil, un formidable pays. Si j'avais 25 ans, je m'installerais au Brésil, un formidable pays. Ils le savent autour de la table. Pardon, pardon pour ma voix qui chevrotte, mais j'ai attrapé la crève.
Non, ça,
ce
vous, ça, ça fait. Ça vous.
Ouais. Ça, c'est quoi? C'est parce qu'il y a eu 5
non,
buts.
Non, ça fait sexy, je trouve.
Ah ouais?
Ouais.
Ouais, ouais, ouais.
Enfin, ah bon, alors, ça, je la garde.
Ouais. Moi, je
surtout, je ne me soigne plus.
Je jette mes fonds.
Bon, ça fait 10 secondes. Hein.
Si oh, j'avais 25 ans, je m'installerais au Brésil, un formidable pays.
Allez. Qui a dit ça?
On peut lui
c'est la question qui vous pose. Allez, il faut y aller alors maintenant, puisque bon, vraiment.
Bah, Dominique Strauss-Kahn.
C'est Dominique Strauss-Kahn. Bonne réponse de Guy Carlier, Pierre Bénichoux. Bah alors, Julie, Grégory.
Ah non, plein de choses, mais pas ça.
Non, dites-le non plus.
C'était dans le JDD hier. Si vous aviez lu le journal du dimanche, vous le sauriez.
On dit que c'est le bois qui lui a donné le goût.
C'est normal, au Brésil, un homme sur deux est une femme. Je comprends qu'il veut y aller.
Si j'avais 25 ans, je m'installerais au Brésil.
Oh, le carnage. Ah, tu m'étonnes. c'est là-bas qu'on fabrique le latex. Hein.
Ouais, c'est vrai. Tout imagine DSK au Brésil.
Oh la vache.
Ah non, c'est formidable. Quand même d'imaginer là-bas la chute de l'EVA. Bah non, franchement, c'était trouvable, Julie et Grégory.
Oui, ouais, c'est
bah
vrai.
Non, pas le JDD,
vrai.
Non.
Eh ben, comment ça, vous n'avez pas le JDD? Ça arrive partout, le JDD.
C'est même Ginette qui l'avait piqué.
J'ai pas travaillé sur le JDD.
Ah, ben voilà le problème.
Le lundi.
Vous savez que Laurent aime le JDD.
Ouais.
Et que le lundi.
Je suis maison, moi, je suis corporate. Non, franchement, je suis déçu, Julie et Grégory.
Bah,
pas autant que vous, manifestement, alors.
Si. Laurent, est-ce que je pourrais avoir votre dernier livre dédicacé
si non. Alors là,
j'aimerais bien, s'il vous plaît.
Ah bah oui, alors là, deux, ça fait beaucoup, hein, quand même. Qu'est-ce que va dire mon éditeur? Où vont en être les ventes?
Mais oui.
Surtout, pour
que surtout que ça allait être 9 exemplaires.
Allez, je vous en offre, hein, c'est d'accord. L'un et à l'autre, vous recevrez radiographie. Merci Julie, merci Grégory. C'est la 60e attraction de Disneyland dont nous parlait Thomas Poupeau ce week-end dans le Parisien. Mais quel est le thème de cette 60e attraction?
Ratatouille.
Bonne réponse, Jérémy Michalak et Florian Gazan.
Et c'est quoi le principe de l'attraction?
Alors écoutez, ça a l'air marrant. Apparemment, on est à bord d'un petit wagonnet et on s'en va dans un énorme restaurant, plutôt dans les cuisines du restaurant de Ratatouille. Et c'est assez marrant. Comment il le raconte, d'ailleurs, le journaliste du Parisien, là, Poupeau, il dit « Voilà, perché sur une verrière, j'observe la brigade de cuisine d'un restaurant gastronomique s'affairer. Problème, la vitre s'ouvre subitement. Le véhicule se penche vers l'avant, donnant l'impression de tomber. C'est la panique. Je me faufile entre les jambes de commis pressés, poursuivi par le terrible chef Skinner. Et vlan, un coup de serpillière mouillée m'asperge le visage. » Ça fait partie de l'attraction, j'imagine. « Je file sous une gazinière qui s'allume brusquement, provoquant un vrai coup de j'imagine qu'on ressent un coup de chaleur. Dans la foulée, mon véhicule se retrouve dans la chambre froide. Là, d'un seul coup, je pense qu'on a froid. Je suis submergé par un parfum d'orange et frigorifié.
Donc là, tu supposes qu'on
envoie un l'orange.
Parfum. On est dans l'orange.
Et à la fin, je meurs écrasé par une énorme tapette.
Mais c'est ça, ma course folle se poursuit dans la salle feutrée du restaurant, embarqué sur le chariot à fromage dont les roues sont énormes. Puis, je me réfugie dans les murs, évitant de peu une tapette à souris. Avant de faire irruption dans une autre cuisine, à mon échelle cette fois, emplie d'odeurs de pain grillé et de soupe. C'est rigolo comme idée quand même.
Ça a l'air rigolo, mais ça n'a pas l'air pour les tout petits, ça doit leur faire peur quand même.
Ah bon?
Oh non, pourquoi?
Bon, attends, si. Tu les mets dans le froid, dans le chaud, il n'y a pas assez sponsorisé par Courgeot aussi. Ça va pas.
Vous saviez, Pierre, vous connaissez Ratatouille?
Mais bien sûr.
Ah bon, vous avez vu le film? Moi, je ne l'ai pas vu, Ratatouille par exemple.
Vous n'avez pas vu Ratatouille?
Bah non, je n'ai pas vu Ratatouille. Oh bah
non,
c'est,
bien
bah, c'est pas tout à fait ma génération, bah, Ratatouille.
Bien sûr, tu mets tes courgettes, tes aubergines. Tes tomates, un peu d'ail. Allez.
Non mais vous connaissez, avouez Pierre que vous n'allez pas vous faire plus érudit que moi. Vous ne connaissiez pas Ratatouille.
Plus érudit que vous, le mot érudit est déjà un superlatif.
J'ai fait exprès.
Un peu moins d'ignard peut-être. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire Ratatouille, je sais ce que c'est que Ratatouille. Et je me disais, je vais faire l'idiot à faire celui qui ne sait pas qu'il y a eu un film d'animation.
Mais c'est quoi comme animal?
Oh, plus je vous emmerde.
C'est quoi son prénom?
C'est la Gestapo ici. Ça veut dire ça. Est-ce que pas parlé, moi, j'ai pas balancé Jean Moulin. C'est pas pour parler avec vous.
Mais est-ce que vous êtes déjà allé voir le film, Ratatouille?
Mais non.
Bon, bah
je
alors.
Je vais jamais au cinéma, moi.
Non, mais t'aurais pu le voir avec tes petits-enfants.
En DVD.
Mais alors,
DVD.
J'ai la télé, moi, pour les petits-enfants.
Bah, il est passé à la télé, Ratatouille.
Ouais, en plus, oui, ça a été un énorme succès. Et c'est vrai que cette attraction, à mon avis, va faire un carton.
C'est très sympathique. Le film est très sympathique. Je moi, je l'ai vu adulte.
Je le souhaite pour Walt Disney, qui est un type tellement bien. Cette attraction va faire un tabac. D'où tu sais?
Je sais pas,
tu
moi.
Sais tout,
oh,
toi,
bah,
alors,
si. Tu penses comme
il a même pas vu Ratatouille. Il a même pas vu. Il a pas vu Ratatouille.
Tiens, une question musicale, justement. Ce duo originaire de Laval, évidemment, je ne vous donne pas leur nom. Il s'agira de retrouver le nom de ce duo, un groupe.
Pétain Hitler ?
Non, à deux, on est... à deux. Originaire de Laval, Pétain Hitler. Oui, c'est pas mal. Mais,
que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Il s'appelle Nicolas et Frédéric Boinard.
Ah oui.
C'est leur vrai nom.
Des vrais collabos.
Et leur troisième album vient de sortir. L'album précédent était très très réussi. Là, on va écouter un extrait de leur nouvel album. Mais avant d'écouter cet extrait, il faut retrouver le nom de ce duo. Autant vous dire qu'ils ont pris comme nom le nom de quelqu'un qui est né à Syracuse et mort à Syracuse. Ah. De qui s'agit-il ?
Ne serait-ce point Archimède.
Excellente réponse de Florian Gazan. Archimède.
C'est Archimède, inventeur de la fameuse le fameux théorème. Tout corps plongé dans un liquide se mouille.
C'est donc normal que ce soit le filleul de Claude François qui ait trouvé.
Filleul d'Archimède et d'Edison.
C'est quand même pas un hasard. Le filleul de Claude François savait que tout corps plongé dans une baignoire ne devait pas toucher une applique.
C'est valable pour le filleul de Whitney Houston aussi.
Archimède. On les écoute, ce groupe bien sympathique. Leur nouvelle chanson est vraiment très réussie. Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Philippe Parola, qui est professeur, je ne vous dis pas où, mais dans un hôpital, puisqu'il va nous parler de la maladie de l'homme courbé. Mais sous quel nom connaît-on mieux la maladie de l'homme courbé ?
Raffarin ?
Non.
La raffarinite.
La raffarinite aiguë. Atteint d'une raffarinite aiguë. Non.
L'hernie discale ?
Non, non plus. La maladie de l'homme courbé.
La maladie de l'homme courbé, ça veut dire qu'il y a une dégénérescence qui s'installe.
Non.
Ah, il est bossu ?
Non.
Est-ce que c'est la maladie de l'homme courbé ?
Est-ce que c'est un mec qui est obsédé par les arnaques ?
Non, du tout.
Pas ça.
Ou les voisins.
Ou les maillons faibles.
Non.
Attendez. Professeur à l'hôpital, il est.
Oui, professeur. Ah oui, à l'hôpital nord de Marseille. Tiens,
au nord de Marseille.
Mais il faut trouver pourquoi. C'est quoi la maladie ?
Oui,
la maladie de l'homme courbé. La maladie, d'ailleurs.
Qui est plus connue sous un autre nom.
Oui, et on en parle beaucoup dans les journaux en ce moment.
Spongivite aiguë, non ?
Non.
Ah, c'est pas la dégénérescence de l'AML, DMLEA ?
Mais non, c'est l'œil, ça.
Et DMLAE.
C'est l'œil.
Ah non, faut que je lise les articles derrière le titre.
C'est l'œil, c'est ce que je viens de comprendre.
Je ne sais pas, mais...
Dégénérescence maculaire liée à l'âge.
Pas du tout.
Non, c'est pas ça.
La maladie de l'homme courbé, on en parle un peu partout dans les journaux aujourd'hui.
Il y a une journée mondiale,
non, il n'y a pas une journée mondiale.
C'est une métaphore quand on dit l'homme courbé.
Il y a une crainte à propos de cette maladie.
C'est une métaphore réelle.
Oui, c'est une métaphore réelle, oui.
Qu'il est courbé parce qu'il a porté un truc trop lourd ?
Non.
C'est lié à... Vous avez vu ? Physiquement, on a une image de quelqu'un qui est voûté, quoi. Qui est
cassé en deux.
Ça a un rapport avec le bison.
Pas du tout. Le bison, pourquoi le bison,
parce que le bison, il a une corne de bison.
Non,
et que ça fait courber.
Tu auras le bison, si tu es très gentil avec moi.
Ils sont désaxés.
Tu auras le bison, mais il faut faire tout comme je te dis.
Je préfère les rinards argentés.
Stevie, vous alliez dire quelque chose.
Non, c'est...
Eh bien, continuez alors.
Est-ce que c'est lié à la pénibilité d'un job ?
Employer des mots courants. Pas du tout. Ce n'est pas lié à l'âge.
Est-ce que cette maladie, quand vous l'attrapez, d'abord, est-ce qu'on peut la soigner ou pas ?
On peut la soigner, mais évidemment, les personnes âgées, les plus jeunes, sont un peu plus.
C'est la maladie.
Et si on la soigne pas, on se ratatine.
On est courbé.
Et on finit courbé.
Ah ben un peu, oui. On a des douleurs articulaires, en tout cas.
C'est une maladie grave, genre la sclérose en plaques.
Je suis surpris que vous ne soyez pas au courant, qu'on en parle beaucoup en ce moment de cette maladie. Puis c'est quand même 18 départements dans l'Hexagone qui sont touchés.
Tuberculose.
La chikungunya.
Bonne réponse de Florian Gazan et Caroline Diamant.
J'ai très peur.
Bonjour docteur, ou professeur, comment je dois dire?
Professeur. Oh, oui, professeur. Bonjour à tous.
Bonjour professeur. Alors pourquoi appelle-t-on, pourquoi appelle-t-on la chikungunya la maladie de l'homme courbé?
Alors le chikungunya, en fait, c'est le nom, c'est un langage est-africain, le Makonde, qui a été donné par les premiers villageois qui ont été atteints par cette maladie dans les années 70 en Afrique. Et comme vous le savez peut-être, cette maladie est caractérisée par des douleurs articulaires et tendineuses tellement importantes que les gens, pour trouver une position antalgique, c'est-à-dire une position qui leur fait un petit peu moins mal, marchaient courbés.
Ah, ça alors
de voir des gens marcher courbés dans les villages, on a
Docteur, vous en avez vu beaucoup, des gens comme ça?
Alors malheureusement, il y a deux choses. Il y a actuellement une épidémie qui touche nos compatriotes des Antilles françaises avec plus de 50 000 cas en Martinique et en Guadeloupe. Donc mes collègues qui travaillent en Martinique et en Guadeloupe voient de nombreux cas. À titre personnel et à Marseille, nous sommes un centre de référence pour ce qu'on appelle les maladies du voyageur. Et nous voyons et nous avons vu des patients qui se sont infectés par le virus du chikungunya dans les Antilles et que nous voyons en consultation dans la région, notamment à Marseille.
Mais quand on nous dit qu'il y a 18 départements de l'Hexagone touchés, c'est pas un peu alarmiste ça quand même?
Alors en fait, il faut bien différencier deux choses. Les 18 départements, et notamment le sud de la France, nous ne sommes pas touchés par une épidémie de chikungunya.
Ah, vous me rassurez.
En revanche, nous avons... dans la région, le moustique vecteur.
Oh là là.
Il s'appelle le moustique tigre.
Mais il y en a plein.
Ah bah je m'arrête plus chez Esso.
En
moi,
ce moment, il y en a plein.
Mais ouais, bah j'en ai en Camargue. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils se
mais
sont.
Mais moi, j'en ai à Paris.
Ils se sont répandus, ils sont partis de Marseille, ils ont suivi l'autoroute A9, en fait, dans les bagnoles.
Alors, ils sont dans toute la région, ils sont dans le sud de la France, et ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'un voyageur revienne des Antilles avec le virus dans le sang. À ce moment-là, le moustique du sud de la France, et d'ailleurs en Europe, va pouvoir le piquer et transmettre le virus à quelqu'un qui n'a pas voyagé.
Il paraît qu'il y a déjà dans des cirques des dompteurs qui mettent leur tête dans un moustique tigre pour voir ce que ça donne. C'est des numéros assez impressionnants. Non, mais alors, sérieusement, qu'est-ce qu'on peut faire?
En ce qui nous concerne, les médecins, quand nous voyons un patient qui revient et chez qui nous diagnostiquons une infection à chikungunya, nous déclarons le cas aux autorités sanitaires et nos collègues entomologistes, c'est-à-dire les spécialistes des moustiques, vont aller chez les patients et vont démoustiquer dans les jardins pour éviter justement qu'ils se fassent piquer par un moustique marseillais, aixois ou du sud de la France et transmettre la maladie. Donc il y a deux choses actuellement, une épidémie dans les Antilles et puis ailleurs dans le monde, et une surveillance en France des cas d'importation pour éviter justement une épidémie locale.
Non mais c'est très bien ce dont vous parlez à titre préventif, docteur, mais est-ce que vous arrivez à soigner quelqu'un qui est déjà atteint de cette maladie?
Oui, bien sûr. Alors, c'est une grande grippe. Hein. L'infection à chikungunya, c'est une grippe avec des douleurs articulaires et tendineuses très importantes qui gênent les gens. Donc, on peut leur donner des traitements pour diminuer la fièvre, pour diminuer la douleur, pour diminuer l'inflammation. Malheureusement, dans un petit nombre de cas, qui peut aller quand même jusqu'à 30 à 40%, certaines personnes font une phase secondaire de la maladie. C'est comme une rechute. Et c'est justement ça qui va les gêner dans la vie de tous les jours par des douleurs articulaires et tendineuses. Et là, on fait ce qu'on peut, c'est-à-dire on doit diminuer la douleur, diminuer l'inflammation, car on n'a pas de traitement.
Pierre est affolé.
Non mais toi, Pierre, c'est la maladie du sommeil.
Moi qui pensais aller dans deux ans dans le midi.
Est-ce qu'on peut en mourir, professeur?
Non.
Alors, il y a
à part les personnes âgées et les bébés.
Voilà, c'est ça. Il y a eu les états qui avaient été décrits.
Quand vous avez une grand-mère et un nourrisson, ça fait chier quand même.
Ah oui, c'est vrai.
Surtout qu'on avait acheté une grande bagnole pour ça, c'est dommage.
Ah non, moi ça me fait très peur.
Le problème de cette maladie, c'est qu'il faudrait que vous donniez un nom plus médicalisé. Vous voyez, là, ça fait un peu danse sud-américaine.
Ouais. Ah, la maladie de l'homme courbé.
Ça fait danse de l'été, chikungunya, un peu. Bah, ouais.
Il y a trois médicaments.
Ça marche bien, les gens le retiennent.
Il y a trois médicaments. Ouais. Vous avez une boîte d'Aramis, deux doigts de Porthos et un morceau d'Athos. Ça fait les trois moustiquaires.
professeur, c'est quoi la différence entre la chikungunya et la dengue ?
Ah bah, alors, la dague, elle vient à partir de demain seulement.
Christine.
Elle pique pas, celle-là.
Alors, ce sont deux maladies tropicales qui sont bien connues et qui sont justement transmises par le même moustique.
Non,
le fameux moustique tigre.
Non.
Il pique à tous les râteliers, celui-là.
Quel salopard. C'est de ça que vous venez nous parler à la radio, docteur? Vous n'avez pas d'histoire plus amusante à Marseille? Je te jure, moi, les docteurs, je le mettre en prison.
Ah ouais?
Professeur ou pas, allez trouver le remède. On l'a pas trouvé, restez en prison. Il nous parle de trucs, oui, nous avons des cas. Non. Vous n'avez pas à avoir des cas, vous avez à avoir des guérisons.
N'écoutez pas Bénichou.
Monsieur docteur, professeur Bénichou.
N'écoutez pas le professeur Bénichou, professeur Parola. On vous remercie d'avoir si gentiment répondu à nos questions sur le moustique tigre, la chikungunya et donc la maladie de l'homme courbé.
On va se gêner sur Europe 1.
On va se gêner.
Laurent Ruquier.
Toujours avec Pierre Bénichoux, Caroline Diamant, Guy Carlier, Stevie Boulet, Jérémy Michalak et Florian Gazan. Et on reprend avec une citation, puisqu'on célèbre aujourd'hui la disparition de quelqu'un dont je vais vous demander le nom. Il est décédé le 23 juin, on est aujourd'hui le 23 juin 1959. Et il avait dit « Un homme digne de ce nom ne fuit jamais. Fuir, c'est bon pour les robinets ».
Qui a fait cette déclaration?
C'est pas un philosophe, non.
C'est un français, hein, c'est une phrase dite en français.
Un français.
Il est mort à quel âge?
Alors, il est mort le 23 juin 59. Il est mort assez jeune.
Assez jeune.
C'était un politique?
D'accord.
Un politique, non.
Un sportif?
C'était l'ancêtre de Dolto?
L'ancêtre de Dolto.
C'est quelqu'un comme ça qui est dans la médecine et qui nous sort des phrases.
Elle était pas tout à fait dans la médecine.
Non, mais elle aidait les enfants, Françoise Dolto. Elle était quoi?
Elle était la maman de Carlos.
On a vu le résultat.
Mais c'est vrai, oui.
Non, mais je sais.
Pourquoi vous vous marrez?
Vous faites rire. Non, mais c'est quoi le délire?
Avec ma voix? Oh. Avec ma voix éraillée. Je suis sexy, je le fais rire, il me cherche, lui.
Est-ce que c'est un auteur?
Un auteur, oui, c'est un auteur.
Il est mort comment?
Ah bah, il est mort de sa belle
de
mort.
De sa mort, oui.
Sacha Guitry?
Pas comment il est mort, d'ailleurs. Tiens, c'est vrai, ça, c'est une question.
Il est mort jeune.
Bonne question.
De quoi?
Il est mort jeune.
Mais de sa belle mort.
Il est mort le jour de sa mort, surtout.
Le jour de son décès, il est mort.
Il est mort d'un arrêt cardiaque, voilà, à 39 ans.
Waouh, c'est Gérard Philippe, évidemment.
Non, il est mort le 23 juin. C'est l'anniversaire de sa mort aujourd'hui. Le 23 juin 59, mourait cet homme qui a déclaré, je rappelle la phrase, peut-être que ça va vous aider, Pierre, puisque vous n'étiez pas là au moment où je l'ai donné. Un homme digne de ce nom ne fuit jamais. Fuir, c'est bon pour les robinets.
Super Mario?
Camus, c'est Camus, non?
Ce n'est pas Camus.
Super Mario?
Non.
Fuir, c'est bon pour les robinets, ça doit pas être une épée, le mec. Hein.
Est-ce qu'il a prononcé d'autres phrases célèbres?
Oh, plein.
Il était humoriste?
Oh, humoriste, c'est pas un mot qui lui convient, mais il avait de l'humour.
Amuseur,
oui, c'est pas tout à fait, il allait mieux que ça, pardon pour les amuseurs que nous sommes. Mais...
T'es un dramaturge.
Oui, dramaturge, non, je crois pas, enfin, c'est pas ce pourquoi on le connaît.
On le connaît parce qu'il écrivait des pièces de théâtre?
Bah, dramaturge, qu'est-ce que c'est d'autre?
Est-ce qu'il a réalisé des films?
Elle est con ou quoi?
Elle est pas con. Elle est inculte.
Enfin, elle est elle-même, quoi.
Est-ce qu'il a réalisé des films?
Réalisé des films, non.
Écrit des films, non,
mais il y a certaines de ses œuvres qui ont été adaptées à l'écran.
Donc c'est un écrivain.
Est-ce
qu'il a gagné un goût?
Mais il avait de l'humour, hein. Il faisait beaucoup de jeux de mots.
Boris Vian,
bonne réponse de Florian Gazan. Excellent. Boris Vian, bah alors Pierre.
J'étais là le jour de sa mort.
C'est pas vrai.
Au cinéma?
Il est mort dans un cinéma aux Champs-Elysées. C'était l'avant-première du film J'irai cracher sur
exact.
Le bouton.
Exact.
Et je devais y aller, je me suis pas réveillé.
Déjà à l'époque.
C'est à 10h du matin.
En 59.
C'est à 10h du matin. Moi, je travaillais à Paris Presse à l'époque et je suis descendu de mon hôtel, de l'hôtel Taran, boulevard Saint-Germain. Et la portante me dit, vous avez vu, Boris Vian est mort. Je dis, quoi? Oui, dans le cinéma. Et je me suis dit, voilà. Quel journaliste je serais toujours nul quand j'aurais pu assister à la mort.
Ah ouais, parce que je signale quand même que vous avez commencé par nous dire j'étais là quand il est mort. Ouais. Alors que vous n'étiez pas là en fait.
C'est pareil.
Ah bah non. Si vous étiez en train de dormir à votre hôtel, moi aussi j'étais en train de dormir dans les couilles de mon père.
J'étais là, ça veut dire j'étais.
J'étais vivant.
T'étais vivant, t'étais sur Terre.
Vous auriez été là si vous vous étiez réveillé et que vous étiez allé à la projection de J'irai cracher sur vos tombes.
J'ai quand même une sorte de proximité avec cet événement.
Oui, c'est t'as failli. On liste tous les trucs auxquels on a failli assister.
T'étais à 3 km.
Le drame de ces gens, c'est malheureux là, c'est qu'ils sont jaloux.
Mais Pierre, avouez quand même que nous on était toutes, oui, à vous entendre raconter une anecdote incroyable. Et je vous jure que j'y croyais. Je me disais, c'est quand même un hasard étonnant. Je prépare cette question ce matin parce que je lis dans le Figaro. Hein, c'est grâce au Figaro que je vois cette citation de Boris Vian à l'occasion de la disparition et de l'anniversaire de sa disparition à 23 juin. Paf! Vous nous dites, et je vérifie effectivement, je vois qu'il a eu un arrêt cardiaque à 39 ans l'heure de la projection de l'adaptation cinématographique de son livre J'irai cracher sur vos tombes, et là vous me dites j'y étais. Alors nous on s'imagine déjà dans la salle de cinéma, vous
qui avez des michocos,
en train de vous projeter vers lui pour essayer, je sais pas moi, de faire un massage cardiaque.
C'est le film qu'on projetait.
Et puis total, vous nous dites 30 secondes plus tard, bah non, je dormais dans mon lit à l'hôtel à 500 mètres d'ici.
C'est comme la faute.
Excusez-nous, on a le droit d'être déçus, Pierre Bénichou.
C'est comme la faute. Vous pouvez être déçu, mais c'est pas comme un menteur. Il vous dirait, Boris Vian, j'étais là quand il est mort. Je me trouvais à Casablanca, 10 ans avant. Il est passé par là. J'ai dit bonjour. Non, c'était un ami dont j'ai loupé la mort.
C'est dommage. Pas du tout, elle était très réussie.
C'est dommage, il n'y a pas de deuxième chance. Hein.
Et c'est bien le Figaro de choisir. Il ne faut pas fuir. Fuir, c'est bon pour les robinets. Alors qu'il a écrit 1000 phrases formidables dont je ne voudrais pas crever, dont des tas de choses formidables. Boris Vian, enfin.
Oui, formidable.
Quelle citation.
Mais c'était un homme malin.
Heureusement que vous ne bossez pas au Figaro, parce que dites donc, la citation aurait été encore pire qu'un homme digne de ce nom.
Il a dit beaucoup aussi. L'humour et la politesse du désespoir. C'est quand même plus joli que... C'est pas lui qui l'a dit.
Non, c'est pas lui qui l'a dit.
Pierre Bénichou, à peu près iste.
Paris Presse.
Il a dit surtout, on lui a attribué... Parce que c'était une vedette plus encore pour ce qu'il représentait que pour ce qu'il était. Et on a adoré Boris Vian, parce que c'était Saint-Germain-des-Prés, c'était là, toute cette ambiance-là. Il jouait de la trompette.
Pierre, dans ce cas-là, c'est quoi ?
Et je termine parce qu'il y a des gens que ça intéresse. Oui, mais bon. Et je dis que Boris Vian lui a attribué aussi cette phrase merveilleuse qui n'est pas de lui. Et qui est...
Ah non mais écoutez Pierre, non, franchement vous êtes en train de nous faire un truc incroyable. C'est pour génial. Rendre hommage à Boris Vian, vous dites j'étais là quand il est mort, mais vous étiez en train de dormir dans une chambre. Après vous nous citez une phrase de Boris Vian qui n'était pas de lui. Non mais enfin vous foutez
une deuxième que
si vous seriez en train de vous foutre de notre gueule, que ça m'étonnerait pas. Dans un instant, nous aurons au téléphone un numéro 1, un mondial. Numéro 1 français, ça va de soi, mais mondial, c'est assez rare. Dans quelle catégorie ?
C'est du sport ?
C'est du sport.
Ça veut être du skateboard ?
Du skateboard ? Soyez pas méprisante comme
ça.
Parce qu'on aura au téléphone le champion du monde.
Ah, mais c'est pas méprisant du tout, dites donc.
Dans un instant, numéro 1 mondial. Alors imaginez qu'il ait fait du skate, il aurait entendu Caroline Diamant faire du skateboard.
Ping-pong.
Ce n'est pas du ping-pong.
Est-ce que c'est un sport confidentiel un peu ?
Un sport confidentiel, peut-être trop confidentiel, qui mériterait de l'être moins.
Le sport confidentiel, c'est quoi ? Bavardage ?
Parce que c'est un sport énormément pratiqué.
Mais c'est pas olympique.
Ce n'est hélas pas olympique.
Est-ce que ça se joue seul ou est-ce que ça se joue à deux ?
Ça se joue à deux.
À deux.
Enfin, l'un contre l'autre.
Je connais déjà.
Quelle est votre question, Caroline ?
Alors, par exemple, vous jouez au badminton face à quelqu'un, alors que du skateboard, vous pouvez en faire tout seul avec votre planche.
Donc à deux, voilà.
Donc ça se joue à deux.
Contre un adversaire.
Contre un adversaire.
On n'aurait pas déjà parlé.
Oui.
Alors, c'est le squash.
C'est le squash. Bonne réponse de Florian Gazan.
Et on a un Français qui est numéro un mondial.
Et oui, on avait parlé, on avait évoqué, sauf que là, aujourd'hui, on l'a au téléphone. Ah ouais. Grégory Gauthier, autant vous rendre hommage quand même, parce que c'est vrai qu'on ne parle pas assez des numéros 1 mondiaux.
Grégory, après ce qu'il a subi dans l'ourne et dont il a
dû non.
Il est meilleur en squash qu'en natation. Oh,
là, c'est trop, là.
Il a fait splash et après squash.
Il est comme recordman du monde d'apnée. Hein.
Ah, il est fort. Hein.
Non, Grégory Gauthier, je suis désolé.
Le grand bleu.
Bel hommage, bravo les camarades.
Et d'ailleurs, vous espérez, alors que vous êtes numéro un mondial, conquérir le titre de champion du monde individuel en novembre prochain, parce que c'est pas tout à fait la même chose, c'est bien ça ?
Allô, oui, bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour. Oh là là, excellent.
Oui, j'ai pas eu de titre de champion du monde encore, j'ai perdu 4 fois en finale, voilà, c'est le titre qui me tient à cœur.
Alors, comment on peut dire, alors que vous n'êtes pas champion du monde en titre, que vous êtes le numéro un mondial ? Comment ça se calcule ?
Bah, parce qu'en fait, numéro un mondial, ça se calcule sur la moyenne qu'on a sur tous les tournois durant l'année.
Ah, d'accord.
Donc, un titre de champion du monde, c'est juste un seul tournoi. Qui est le chemin du monde. Donc,
alors que vous êtes champion d'Europe pour la 8e fois, c'était à Valenciennes la dernière fois, vous avez remporté le British Open, qui est le plus prestigieux des tournois, et le Windy City Open, qui est un tournoi qui a lieu à Chicago. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes numéro 1 mondial, c'est bien ça ?
En fait, il y a 12-13 tournois dans l'année. Il y a un système de points, comme on va dire l'ATP au tennis. Et
comme au tennis,
oui. Ça fait plus de points sur la saison.
Vous êtes le plus régulier. Vous êtes le plus régulier sur la saison. C'est-à-dire, comme au tennis, on peut être numéro 1 mondial sans avoir gagné un seul tournoi du Grand Chelem.
Exactement.
Quelles sont les autres nations les plus fortes en dehors des Français au squash ? Parce que je sais qu'il n'y a pas que vous, on est pas mal. Il y a quelques Français qui sont bons.
Oui, il y a donc Mathieu Castagnier qui est rentré pour la première fois dans le top 20 mondial.
Ouais.
Et qui est actuellement 18 mondial. Et ensuite, on a Grégoire Marche qui est 25 mondial.
Et les autres nations alors ?
Donc les nations fortes sont l'Égypte et l'Angleterre.
À l'Égypte. Les Égyptiens sont bons au squash parce qu'ils sont profil par rapport au mur. Comment ça se passe ?
Ça doit être chiant les Angles avec les pyramides, non ?
Mais j'ai l'habitude de jouer contre les pyramides, c'est beaucoup plus dur.
T'aurais vu Champollion au squash.
Mais on peut caresser l'espoir de vous voir champion du monde un jour ou pas ?
Stevie veut toujours caresser. Hein.
Même l'espoir.
Même l'espoir, il le caresse.
Alors là tu vois.
Faut faire attention de pas trop caresser l'espoir. Parfois, il est mineur.
Est-ce qu'on peut le toucher du doigt ?
Il ferait bander l'espoir, Stevie.
Non, mais j'aimerais être journaliste parce que c'est une question que je poserais. Est-ce qu'on peut caresser l'espoir de voir le Premier ministre ?
Enfin, tu la poserais si tu te réveillais.
À quelle vitesse va la balle au squash ?
Environ 250 km/h.
Ouais, ah, mais quand même.
Ah, c'est plus vite que le tennis. Hein.
Ah, c'est pas rien quand même, 250 km/h.
C'est juste une petite caresse, quoi.
Mais moi j'ai une raquette dédicacée par un champion de France de squash.
C'est pas vrai.
Oui, grâce à vous.
Et comment il s'appelle ?
Vous m'aviez envoyé jouer, on a tout essayé avec un champion.
Et comment il s'appelle ?
Et combien je peux le faire en vendant la raquette ?
Thierry Lincoux.
Thierry Lincoux, il a dit.
Il était très beau.
Non, Thierry Lincoux, pas tirer un coup.
Oui.
Même ça, il l'a déformé.
Ah, il veut ta raquette, il veut tirer. Moi, j'étais hors sujet.
Thierry Lincoux, il s'appelle. Oui. Voilà. C'est
très
lui.
Beau brun, c'est ça.
Réunionnais.
Ouais. Très sympathique.
Eh ben, il a gardé la raquette. Vous voyez. Est-ce que vous pouvez envoyer votre raquette pour Stevie, Grégory?
Pourquoi pas,
vous voyez.
Merci Grégory.
Voilà, moi il caressera la raquette, à défaut de caresser l'espoir. On vous souhaite en tout cas de remporter le titre de champion du monde. Ça se passera où ?
Ça se passe au Qatar à partir de mi-novembre.
C'est quoi la capitale du Qatar ?
C'est Doha.
Doha.
Ouais. Et ouais, les champions de squash sont plus cultivés que Pierre Bénichou. Allez, Florent Pagny sur Europe 1. Il est péruvien, il a 30 ans de moins que son père, c'est-à-dire 56 ans. De qui s'agit-il ?
Moi, je sais.
Ah, ne dites rien,
je dis rien.
Laissez vos camarades jouer parce que vous êtes le plus fort,
merci.
Évidemment.
Vous n'avez pas encore dit ça.
Peut-être que Florian Gazan le sait aussi, d'ailleurs.
Donc, son papa est en vie.
Lui, il est péruvien. Son papa est en vie, oui, c'était votre question,
oui,
Caroline.
Si le papa est en vie, ouais.
Et lui a 30 ans de moins que son papa, c'est-à-dire qu'il a 56 ans.
D'accord. Donc, le papa a 86 ans. Et il est très célèbre, le
papa.
Ah,
tiens, j'ai mal fait mes calculs parce qu'on me dit qu'il en a 88 dans la presse.
Ah ouais. Donc
comment c'est possible, ça?
Il a 32 ans, moi.
Bah ouais,
32 ans.
À 32 ans, il y a des mecs qui vendent encore.
Le papa est péruvien aussi ou...
Ah, le papa n'est pas péruvien.
Le papa est japonais.
Non.
Ah, est-ce que ça serait pas le fils de Raoni?
Le fils de Raoni.
Pourquoi le fils de Raoni ?
Je sais pas, on cherche le fils de quelqu'un de connu.
Tu crois qu'il le transportait sur son plateau ?
Il a un mini plateau, son fils.
Ouais.
Il a une soucoupe. Le sous-tasse. Le sous-tasse.
Alors, c'est un musicien.
C'est pas un musicien, non, non.
Est-ce que le monsieur de 56 ans est un homme politique ?
Le monsieur, il n'y a pas de monsieur de 56 ans. Y a
un c'est
monsieur,
une femme ?
Il y a un monsieur de 88 ans.
Oui. Et le péruvien, c'est une femme.
Et il a un fils péruvien. Enfin, c'est pas tout à fait un fils, tout en étant un fils. C'est...
Oui ! Je
alors,
sais.
C'est
le...
C'est la Conchita ?
Non, comment ça s'appelle ? L'ours !
Quel ours ?
Mais y a pas
l'ours, l'ours Paddington ?
Ouais. L'ours Paddington ! Bonne réponse de Caroline Diamant !
Mais comment tu sais ça, toi ?
Je savais pas.
Eh oui, l'ours Paddington est péruvien, le créateur de Paddington.
Non, arrêtez tout. Okay. Comment un homme de 88 ans peut avoir un fils qui est un ours?
Si tu couches avec...
T'as raison,
si
88 ans, on comprend pas, c'est ça.
Et moi, je suis là.
C'est la différence
le père,
d'âge que tu
le fils, et je suis avec une bande d'escrocs qui savent tous. L'ours. Mais comment l'ours?
J'ai dit que ce ne sont pas
papa. Moi, je croyais qu'ils se moquaient d'elle, qu'ils disaient, ah, l'ours. L'ours Paddington. Et elle lui dit, mais comment t'as trouvé ça? Elle dit, normalement. Non, j'ai l'impression d'être un polytechnicien à Pigalle.
Non, mais sérieusement, c'est un peu ça.
Non, mais jusqu'où vous allez me faire marron comme ça?
Un polytechnicien à Pigalle.
Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Effectivement, le papa de Paddington s'appelle Michael Bond. Il a 88 ans et c'est lui qui a créé Paddington qui s'est vendu à 35 millions d'exemplaires. Il y aura un film d'ailleurs de Paddington qui sortira d'ici à la fin de l'année. C'est même Guillaume Gallienne qui fera la voix de l'ours. Paddington, c'est un ours péruvien, maladroit, qui débarque dans une famille britannique. C'est, on va dire, symbolique de la tolérance, savoir accueillir les gens, savoir accepter les différences.
L'intégration.
L'intégration, parce que c'est pas facile de faire vivre un ours à la maison, vous voyez.
Surtout péruvien.
Et il l'a appelé Paddington parce que, tout simplement, il habitait près de la gare de Paddington.
Imagine,
à Londres.
Il a un petit ciré, l'ours, hein, c'est ça ?
Oui, il a un petit ciré jaune sur la tête et un manteau bleu, maintenant. Vous voyez, vous connaissez l'ours Paddington ?
Non, pas du tout. C'est la première fois que j'en entends parler.
À Londres, tu vas à Londres, tu vois que ça. Hein.
Ah, Londres, Paddington.
Franchement,
je connais la gare Paddington où il y avait eu un déraillement quand j'y étais.
C'est pas vrai. Vous avez fait dérailler un train ?
Ah bah pas moi. Le métro avait déraillé à Paddington. Oui, je me rappelle, il y avait eu un grave accident à Paddington.
Mais tu t'étais réveillé à temps ou pas ?
Il y a même une statue de bronze de l'ours Paddington à la gare de Paddington. Ouais. C'est un ours brun. Au départ, il l'avait pas fait péruvien. Il l'avait fait africain. Mais le pays qu'il avait choisi est un pays où il n'y avait pas d'ours.
Ah, c'est con.
Donc il a changé, puis il l'a foutu au Pérou, parce qu'on lui a dit qu'au Pérou, il y avait des ours. Voilà. Ah bon. Tout simplement pourquoi Paddington vient du Pérou, un vrai petit ours qui débarque avec sa valise dans une famille.
J'ai mis un doute hein, quand même. Hein. Je suis pas sûr qu'il y ait des ours au Pérou. Hein.
Ah bah, puisque je vous le dis.
Ah non, je crois pas. Franchement, non, je crois pas.
Il met un doute.
Il caresse du doigt.
Il caresse du doigt, mais il met un doute.
Non, est-ce qu'on caresse l'espoir que tu veux mettre un doute ou pas? Il parle comme dans les cendriers.
Sauf que parfois, il manque des syllabes.
Bientôt, il va nous dire j'en ai une bonne idée.
Vous pouvez croire l'auteur lui-même. Michael Bond déclare dans Le Parisien aujourd'hui « Au départ, dans ma première version, mon ours était originaire d'Afrique centrale, mais mon agent m'a signalé qu'il n'y avait pas d'ours dans cette région. »
Il est quand même un peu con, le mec, parce que ça ne le gêne pas que l'ours arrive avec sa petite valise dans une gare. Ouais. Ça, non, il le met, c'est crédible. Mais le fait qu'il soit en Afrique, ça le gêne beaucoup.
Mais oui, je comprends très bien. Ça t'échappe.
Vous êtes tous fous.
Un ours est aussi
ça m'étonne que ça t'échappe. Parce que là, c'est une invention d'écrivain qu'il arrive avec sa petite valise.
On se doute.
Mais si on dit qu'il vient d'Afrique, non, puisqu'il n'y a pas d'ours en Afrique.
Mais c'est vrai que le Pérou n'est pas réputé pour ses ours.
Mais non.
Si, il y en a. Il y a même un ours qui est très recherché dans le nord du Pérou qui s'appelle l'ours à lunettes.
D'accord. Bah, va sur Google et cherche ours en ciré jaune au Pérou.
Avec sa petite valise.
Avec sa petite valise.
Vous voyez, Stevie, Joujou vous confirme qu'il y a bien des ours au Pérou.
L'ours à lunettes. Allez voir l'ours à lunettes.
Pourquoi on l'appelle l'ours à lunettes?
Parce qu'il a des lunettes dans sa valise.
On l'a réintroduit chez Afflelou.
C'est Afflelours.
Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur.
Bonjour Noémie, bonjour Sylvain.
Bonjour.
Noémie est à Nancy, Sylvain, pourquoi vous vous marrez?
On imagine
tous les grands événements
que Pierre
s'est endormi.
Alors en 69, je vais aller sur la Lune et ben alors là, bing, me suis endormi dans la salle d'attente. J'étais en combi, j'étais prêt.
Hein. Figure-toi qu'en 63, je devais aller à Dallas.
J'ai entendu comme un bruit pendant ma sieste.
En 89, il s'est endormi à la gare de Strasbourg.
En 98, on se dit tiens, Poutine vient de marquer le troisième but. Je me réveille en sursis.
Le mec, il était partout, mais il dormait à chaque fois.
Il y a un peu plus de 15 ans, la seule fois où vraiment il a dormi et qu'il était sur l'événement, c'est quand il conduisait la voiture de Lady Diana.
Et paf dans l'histoire.
Elle me dit prends le tunnel,
je prends le tunnel.
Et là, je m'endors.
Si ma maman était encore là, elle m'accepterait pas que vous vous moquiez de moi comme ça.
Non, bah, vous, Pierre, aujourd'hui,
vous moquez d'un enfant.
Vous avez donné le bâton pour vous faire battre aujourd'hui, franchement. Désolé, Noémie et Sylvain, d'avoir interrompu notre début de conversation, tout début d'ailleurs, parce qu'il n'y a que moi qui ai parlé. Noémie, vous êtes à Nancy, c'est bien ça?
Oui, je suis à Nancy, oui.
Ah, oh, j'adore Nancy.
Et jolie voix, Noémie.
Les meilleures affaires.
Que faites-vous dans la vie?
Je suis notaire assistant.
Notaire assistant.
J'ai compris, mater assistant.
Comment va la vie là-bas à Nancy?
Très bien.
Et vous regardez le foot, vous, en ce moment, Noémie?
Oui, comme tout le monde.
Ah ben voilà, vous avez regardé les Bleus alors vendredi soir?
Oui, mais j'étais pour les Suisses.
Ah, comment ça se fait ça?
C'est scandaleux.
J'aime pas l'équipe de France.
Ah bon? Pourquoi vous n'aimez pas les Français?
Je sais pas.
Oh, mais là, quand même, maintenant. Là...
C'est parce que c'est mélangé comme couleur?
Oh, bah, les Suisses,
écoutez-moi,
pareil,
hein. Dites-moi la vérité, Marine.
Donc j'aime l'argent.
Ah non, mais Noémie, franchement, autant il y a 4 ans, il pouvait être décevant, autant là, quand même, là, ils nous ont épatés. Il n'y avait pas. Je veux dire, les 5 buts étaient magnifiques.
Elle les aime pas.
D'accord, mais j'essaie de la convaincre.
Non, mais qu'elle n'aime pas son pays et qu'elle le dise à la radio. Une radio nationale, c'est honteux.
J'aime vous pas dites... mon pays, mais j'aime Pierre Bénichoux.
Ah oui, donc vous soutenez les Fennecs alors.
Et elle a le droit de ne pas aimer la France, oui, monsieur.
Sylvain, vous avez regardé le match à Lille?
Oui, bien sûr.
Et vous avez encouragé les Français quand même?
Oui.
Bon, on voit que c'est pas un salaud.
Quel est votre joueur préféré, vous?
Je dois admettre que j'aime beaucoup Griezmann.
Griezmann, ah ben, il jouait pas en début de match contre les Suisses, mais Giroud a très très bien joué. Hein. Il a même marqué le premier but. Hein, quand même,
il a aussi crevé un œil, hein, c'est bien.
Oh, oui, il est rentré en Suisse, le type, hein, quand même. Le premier blessé suisse à cause du coup de pied involontaire d'Olivier Giroud a dû quitter le Brésil pour rentrer en Suisse.
Un coup de pied dans l'œil, quel horreur.
Et se faire opérer.
C'est celui dont l'arcade sourcilia a explosé à la fin.
Ah, mais c'est plus que l'arcade sourcilière.
Bah, c'est le plancher orbital.
Moi aussi, j'avais eu affaire à Giroud.
Mais non, mais c'est très grave le plancher orbital.
Born to be alive. Sylvain, vous nous avez dit ce que vous faisiez dans la vie, Sylvain?
Je suis à la recherche d'un emploi.
Ah, dans quel domaine?
J'ai un master en management général, donc c'est gestion entreprise, commerce, relations clients, fournisseurs, enfin tout et n'importe quoi.
Bah, on espère que vous allez trouver. Alors, Sylvain, Noémie, vous allez jouer pour un week-end qui vous changera les idées, un week-end de 3 jours, 2 nuits, en formule petit déjeuner, à Canet-en-Roussillon. Où ça? Ah, le fameux hôtel Les Flamants Roses.
T'as un relais du silence?
Non, c'est pas un relais du silence du tout. C'est près de Perpignan, Les Flamants Roses, c'est quand même notre sponsor favori depuis le début de cette émission. Les gens reviennent toujours ravis, les auditeurs nous envoient des cartes postales de là-bas. Il y a une lumière exceptionnelle, paraît-il. Ils font des balades les pieds dans l'eau, la Méditerranée est au pied de l'hôtel, la plage de sable fin est magnifique, la thalasso impeccable, propre, un lieu dédié au confort, au bien-être et à la détente. Noémie, Sylvain, pour gagner les Flamants Roses, il va falloir répondre à cette question qui concerne nos amis portugais qui sont bien tristes, évidemment, parce que là, ils sont quasi éliminés.
Ah ouais, mais alors là, c'est bien fait. Hein.
Ah bon,
parce que l'autre, je me rappelle, le Cristiano Ronaldo, on le voyait sur BFM TV la veille du match Portugal face, c'était qui, les Portugais face
l'Allemagne. Ils ont joué contre
L'Allemagne.
L'Allemagne.
D'accord, comment
on voyait Cristiano Ronaldo dire, oh bah non, moi j'ai plus rien à prouver, les chiffres sont là, je suis confiant. On vient là pour s'amuser. Et le soir même, il s'est pris une grosse tôle.
Et hier soir, ils ont perdu contre les Américains.
Ils ont fait nul.
Enfin oui, ils ont fait match nul.
Continuez comme ça, vous allez voir votre ménage comment il va être fait.
Il est grave, non.
Mais t'as raison, moi, les lendemains, ma concierge ne monte plus le courrier.
Bah, moi, ma concierge est espagnole et la dame qui s'occupe du ménage chez moi est portugaise. C'est vous dire, c'est deuil national dans l'immeuble. Aïe. J'essaye de réconforter Katharina et crois encore qu'un miracle peut arriver parce que si le Portugal gagne plus de 4-0 contre le Ghana et que les Américains perdent contre l'Allemagne, il y a une possibilité pour les Portugais.
Alors, c'est pas foutu.
Bon, enfin, c'est un miracle. Hein,
ils ne mettront jamais 4 buts.
Il faut miracle.
Pensez que Vermus est en train de calculer ça. Je te dis pas le Doliprane qui est en train de se prendre.
Il est en train de calculer ça, il va dire.
Mais ça n'est pas la question, car il y a quand même un Portugais qui a gagné ce week-end, Noémie et Sylvain. Qu'est-ce qu'un Portugais a gagné ce week-end ?
L'Euromillion.
L'Euromillion, non.
Un Grand Prix ?
Un Grand Prix de quoi ?
De Formule 1 ?
Non, du tout.
Est-ce que c'est du sport ?
C'est du sport.
Ah !
C'est de la moto ?
Non.
Je dis pas un.
Je vais vous aider, je vais vous donner son nom. Rui Costa, c'est son nom.
Oh, c'est tellement portugais comme nom.
Oui, mais avec Internet, eux, ils peuvent trouver nos auditeurs. Rui Costa, un Portugais, a gagné quelque chose.
Le Tour de Suisse.
Le Tour de Suisse, bonne réponse de Sylvain. Et il s'agit de quel sport, Sylvain ?
C'est du cyclisme.
Du cyclisme.
Ah, mais ça doit être épuisant.
J'étais sûr que c'était du cyclisme, le Tour de Suisse.
Bah, pas plus que le Tour de France, en
bah oui, non, mais en France, il y a du plat. Là-bas, il n'y a pas de plat. Il n'y a que des montagnes.
En Suisse, de temps en temps, entre deux montagnes, il y a du plat.
Ouais. Oui, souvent. Ouais.
C'est les lingots qui sont du rapport.
Il a quand même gagné la 9e et dernière étape. Ça se fait en 9 étapes. C'est moins long que le Tour de France. Le Tour
c'est
de
moins réputé.
C'est moins grand aussi.
Voilà. Et ça fait surtout 3 Tours de Suisse d'affilée qui gagne le Portugais en question.
Donc, il faut qu'il en gagne combien pour être connu, le mec ?
Bah, écoutez, il faut qu'on en parle, nous, sur Europe 1. Et c'est fait cet après-midi.
À mon avis, il est avantagé, c'est lui qui a fait les routes.
Quoi ?
C'est lui qui a dû faire les routes. Oh ! Il les connaît par cœur.
Oh, mais les clichés,
Les clichés, la vulgarité, la méchanceté, le racisme.
Voire même, il passe la veille pour ajouter un dodane. Ouais, par-ci, par-là. Il y a des secteurs carrelés, tu sais.
Mais c'est pas possible.
Non, mais franchement, vous êtes con.
Non. Moi, il y a des fois, j'ai honte.
Je m'insurge.
Non, mais il faut le faire quand même de gagner comme c'est ça. 3 fois le Tour de Suisse, en plus avec ses poils qui se prennent dans les rayons. Rui Costa, en tout cas, a gagné 3 fois le Tour de Suisse et ça permet à Sylvain. Je suis content, il est sans emploi, Sylvain. Noémie, vous êtes contente aussi, vous êtes fair play.
Ah, mais c'est pas un hôtel de chômeurs.
Ça me permettra de prendre des vacances.
Eh ben voilà, vous allez partir. Nous faites pas pleurer non plus. Sylvain.
C'est pour ça que me reposer, surtout de ma longue recherche d'emploi.
Et ben voilà, vous allez partir au Flamant Rose pendant un week-end, près de Perpignan. Noémie, on vous embrasse.
Laurent.
Putain, mon éditeur va faire la gueule, je le sens.
Raccroche.
Ça sent le bouquin.
Oui, ma notaire.
Notre studio passe dans un tunnel. On ne vous entend plus.
Non, elle va pas demander un livre. Je suis sûr qu'elle va demander autre chose. Allez-y, Noémie.
Moi, je veux juste quelque chose où vous signeriez tous pour me faire un souvenir de ces,
oh non, non, non,
de ces 15 ans d'Europe 1.
Et puis, pourquoi pas une surprise partie aussi, non ?
Une surprise partie.
Tu nous vois tous signer les trucs.
Le chacun fait.
Vous allez me signer mon plâtre, genre.
Vous recevrez vos signatures sur quoi, je ne sais pas, Noémie, mais on va attendre que quelqu'un se casse une jambe et on vous envoie le plâtre, d'accord ?
Gentil, merci.
Allez, on vous embrasse tous les deux. Ça, c'est assez incroyable. Hein. Il paraît qu'on peut en voir actuellement sur les berges du Rhône. Quoi donc ?
Des crapauds ?
Non. C'est à Lyon, hein. Je parle des berges du Rhône à Lyon. Ouais.
D'accord. C'était des animaux.
Ah, bah, le Rhône, c'est pas qu'à Lyon, Pierre, je précise. Vous voyez, pour vous aider, ne ronchonnez pas dans votre coin quand je vous tends une main pour que vous alliez un peu plus vite dans l'exercice difficile, délicat de répondre à cette question.
Est-ce que j'aurai le privilège de vous présenter mes excuses ?
Mais bien sûr, monsieur Bénichon.
Tu peux caresser l'espoir de l'obtenir, même.
À Lyon, il y a des berges, le long du Rhône, et en ce moment, on peut voir quelque chose d'étonnant sur les berges du Rhône.
Est-ce que c'est une exposition originale ?
Non.
C'est un concours de pétanque ?
Non. Ce sont des animaux.
Est-ce qu'ils remontent de la mer ?
Qui remontent de la mer ? Non.
Des animaux qu'on a emportés ?
Comment ça importer?
Non, 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 c'est con, c'est con.
Genre des éléphants?
Genre des ours péruviens avec une valise?
Non, non, c'est des escargots?
Non, par exemple.
Des escargots. Et là, il y aurait tout un article pour nous dire qu'il y a des escargots.
Mais on est envahi. Mais vous avez pas de jardin. Si vous en avez un jardin, vous devriez le savoir qu'on est envahi par les escargots cette année.
Oui, mais de là faire un article.
Eh ben, il y en a partout, mais vous vous rendez pas compte. Tu marches la nuit dans l'herbe, t'en écrases 5 à chaque fois.
D'accord, c'est pas vrai.
Mais si,
il y a pas d'heure pour les baves.
Mais ça, c'est classique,
l'escargot. Donc, c'est pas un escargot.
Est-ce que ce sont
de
des
plus surprenants, non?
C'est aquatique?
C'est aquatique, oui. Pas seulement. Pas seulement.
Des loutres?
Des loutres, non. Non.
Des rougets?
Non, des rougets,
ah,
non.
Ah, quand vous dites pas seulement, c'est-à-dire
qu'il y a... C'est aquatique, pourtant, les rougets.
Attends, c'est aquatique, mais pas seulement.
Oui, parfois c'est dans l'eau et parfois pas.
C'est comme le crocodile.
Comme le crocodile.
Les hippopotames.
Et c'est des crocodiles?
Pardon?
C'est des crocodiles?
C'est...
Des crocodiles?
Non.
Non, bah, des crocodiles à Lyon.
C'est comme la loutre, c'est ce genre de truc, genre la loutre.
C'est pas la loutre.
Des enfants.
Alors c'est assez amusant parce qu'on nous dit effectivement
des ratons laveurs.
Que c'est assez curieux. On peut voir des renards actuellement dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris. Ouais. C'est pour nous dire qu'il y a des animaux qu'on ne voyait plus en ville.
Ah. Des phoques.
Des phoques.
Des castors. C'est
castorisé. Je crois que vous confondez avec Paris plage, Pierre.
Attendez, j'ai pas compris. Ce sont des animaux qu'on a emportés pour les mettre
des
là.
Des ragodins.
Ou qui...
Comment vous l'avez dit?
Ragondins.
Des ragodins.
Je retente le
ragondin.
Le ragodin, c'est à Marseille.
Je retente le castor pour la sixième fois.
Le ragodin.
Vous avez dit quoi?
Le castor.
Les castors. Bonne réponse de Florian Gazan.
C'est bien fait de retenter.
Vous l'aviez dit déjà
6 fois.
Mais pas entendu.
Bon, c'est pas grave. Hein.
Faut dire que les castors, j'ignore.
Les castors, ils construisent leur maison d'une drôle de façon.
Mais c'est bien.
Oh, bah, Pierre, vous auriez rêvé d'en faire autant.
Bah, j'ai pas compris vos vannes.
Bah oui, parce qu'ils construisent leur maison avec leur queue, voyez.
Ah, bah, voyez, c'est un détail que j'ignorais.
Bah, si, c'est un
peu.
Oui,
bah oui. Bah
ils
oui.
ont la queue plate.
Et ben, on voit des castors à Lyon, désormais, sur les berges du Rhône. C'est assez étonnant de voir ce retour des animaux qu'on peut dire sauvages. Dans des grandes villes, des castors à Lyon, un renard, j'ai dit plusieurs, n'exagérons rien, mais il paraît qu'il y aurait un renard dans les Buttes-Chaumont.
Non, non, c'est Mylène Farmer qui fait Poutine, qui sort la nuit.
Non, mais ils sont plus à leur place dans leur milieu naturel, donc évidemment, ils viennent chez nous.
On a vu des kangourous à Rambouillet.
Non, mais ça, non.
Si,
des kangourous,
ça, ils sortent
avec leurs petites poches.
Oui, Pierre.
Avec leurs enfants dans leurs poches.
Oui, Pierre.
Et marchant dans des bons.
Ouais, en slip, monsieur.
Oh,
oui.
Le petit pont.
Mais viennent d'où les kangourous à Rambouillet?
Mais c'est pas des mythos.
Ils sont échappés d'un zoo, c'est pas
possible.
Il y a beaucoup de faux kangourous aussi. Hein.
Ah oui.
Ah oui, il y a des menteurs qui font passer pour des kangourous. En fait, c'est des lapins.
Et ils se font greffer une poche.
Ils s'en fait une poche ici.
En fait, c'est un lapin avec un caouet.
Non, parce que toutes vos conneries, je peux rien dire, mais les kangourous, je suis sûr que non.
Non, mais en revanche, les castors, c'est plus marrant de voir des castors. Imaginez les Lyonnais qui doivent être là en train de regarder les castors construire, qui sait, des maisons sur les berges du Rhône, ça doit être plutôt sympathique.
Et puis en plus, tu peux les prendre et faire des manteaux de castors.
Ah oui.
C'est joli, le castor, c'est une très très belle
forêt. Je pense que c'est une espèce protégée, Pierre.
L'oslo aussi, c'est une espèce protégée. Et la panthère, ça c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des manteaux.
Alors... Avec les glandes des castors, on fait le parfum.
Ah
ça
oui
sert pour faire les parfums, les glandes de castors.
Ah, ouais. Bien sûr.
Moi, j'adorais les castors juniors avec Donald.
Ah, Riri, Fifi, Loulou.
C'est le rêve
d'une panthère.
Un manteau en peau de pute.
Ça va avoir un manteau en peau de pute.
J'étais sûr qu'elle allait venir, celle-là. Ça faisait bien 3 mois qu'on ne nous l'avait pas raconté. Franchement.
Allez, non, moi, sincèrement, je ne vais pas finir l'après-midi avec...
Dépêche-toi, des fois que Boris Vian décède.
Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus.
Bon, on commence peut-être par les 3 soldats algériens qui vont peut-être, je dis bien peut-être, défiler sur les Champs-Élysées à l'occasion du 14 juillet prochain. Cette année, entre 80 et 90 pays ayant participé à la Première Guerre mondiale seront représentés sur la plus belle avenue du monde, comme on le dit pour éviter la répétition. Mais alors, il y a des démentis. Monsieur Le Drian affirme que l'Algérie n'a pas encore répondu à l'invitation. Alors, oui ou non, y aura-t-il des soldats algériens?
Laurent,
Nantes, un véritable micmac. Monsieur Le Drian, il se réjouissait de la participation des Algériens.
C'est le ministre de la Défense, rappelons-le.
Il s'était rendu à Alger le 20 mai. On lui avait dit, bon, écoutez, vous aurez un porte-drapeau et deux soldats. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend ? Alger dit, on n'a pas de réponse officielle, etc., etc. Je vous signale que Kader Arif, le secrétaire d'État aux anciens combattants, a reçu un accord par mail. Donc, vous voyez, il y a quand même un micmac. On a l'impression qu'il y a plusieurs pouvoirs à Alger. Et on ne sait pas qui décide. Mais le grand quotidien El Watan écrit « Aucune présence algérienne n'est prévue à cette cérémonie », citant une source du ministère de la Défense algérien. Alors bien sûr, je vous signale...
Il y a un mois pour que ça se décante, cette affaire-là.
Ça ne va pas se décanter. Je peux déjà vous dire en exclusivité pour Europe 1 et pour vous, Laurent, que l'Algérie ne participera pas au défilé du 14 juillet.
Donc, comme de toute façon, au 14 juillet, on aura tout oublié parce qu'on sera tous en vacances. On passe au volcan en activité dans le monde, puisqu'on a le Piton de la Fournaise qui était en éruption ce week-end, 24 heures seulement. Est-ce qu'il y a d'autres volcans qui pourraient d'un seul coup connaître une nouvelle jeunesse,
Paul ? Tel un prof de géographie, je vais vous apprendre, Laurent, qu'il y a 600 volcans répertoriés dans le monde. Sur les 600 volcans, 432 sont pour l'instant en sommeil et 168 sont actifs. Et à l'heure où je vous parle, maintenant, à l'heure où je vous parle, Laurent, 22 sont en éruption. 22.
Ah oui ?
Ah oui. Alors vous avez bien sûr le volcan, le Kilauea. Sur l'île d'Hawaï, c'est le plus actif
bien
au monde.
Sûr.
Vous savez, chaque fois, chaque année, on voit, c'est comme un marronnier. De toute façon, il est toujours en train de baver sa lave.
Ça, c'est à Hawaï.
C'est l'île qui grandit.
Ensuite.
Vous avez l'Etna, en Sicile.
Il est toujours en éruption, l'Etna.
Il est toujours en train de baver. Hein. Vous avez le Stromboli.
Ah oui.
Ah, j'adore le
Vous connaissez le Stromboli.
Le Stromboli. Alors lui, il est en éruption ou en activité ?
Celui-là est en forte activité, si on veut être précis.
Avec Sylvana Mangano,
éruption.
Vous avez l'Erebus en Antarctique. Alors l'Erebus,
oui, c'est difficile à déchiffrer aussi.
L'Erebus, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même le volcan le plus austral du monde.
Ah oui,
c'est en Antarctique.
C'est important à savoir. Vous avez Bamus en Papouasie, en éruption.
Bamus est en éruption.
Oui, oui. Vous avez Batutara en Indonésie.
Oui.
C'est méconnu. Et le Bobizan aux Philippines.
C'est méconnu comme volcan Batupara, mais c'est bien.
Oui. Alors, vous avez bien sûr le Kalina au Mexique, Laurent.
Et bien, oui.
Et Concepción au Nicaragua.
Et au Brésil, est-ce qu'il y a des volcans au Brésil?
Tiens, oui. Il doit y en avoir, mais là, sur ma carte géographique, vous voyez, je vois Ubina au Pérou, je vois Galeras en Colombie, je vois le Fuego au Guatemala.
Et Egiafolacul, il va comment ?
Pardon, ma belle ?
Oui.
Egiafolacul, le volcan d'Islande qui s'était réveillé.
Ah oui, bonne question.
Il est toujours en activité, mais il n'est plus en éruption.
Et voilà.
Oui. Ouais, c'est-à-dire qu'il fume et il bave.
On en connaît d'autres.
Hein. Qui vous pensez ?
À personne, Paul. Ah
bon. Vous avez un volcan en Éthiopie, Erta Ale. Vous avez le Merapi en Indonésie.
On va peut-être s'arrêter. Vous avez fait un bon travail, Paul.
Je ne sais pas.
Mais le plus compliqué est à venir. C'est le point complet sur les 8 poules de la Coupe du Monde. Les équipes déjà qualifiées, celles qui vont se qualifier. Quel 8e de finale a-t-on le risque ou la chance de voir bientôt sur nos écrans ? Alors.
Bon, alors, on va commencer. Moi, je veux prendre dans l'ordre, Laurent.
Groupe A.
Alors, dans le groupe A, vous avez le Brésil et le Mexique qui sont ex-aequo avec 4 points. Mmh. Ils ont 2. Le Brésil a toutes les chances de se qualifier et d'être confronté au Chili. Du groupe B, je vous signale que Chili est à égalité avec les Pays-Bas, 6 points. Hein.
On va rien comprendre.
Avec le Pays Basque ?
Oui. Non, pas le Pays Basque, la Hollande, les Pays-Bas.
Ah, c'est pas certain ce que vous dites, parce qu'il y a la Croatie qui a 3 points quand même aussi, Paul.
Oui, et comme il y a Chili, Pays-Bas, là.
Ce que je veux dire n'est pas parole d'évangile. Hein.
Ah bah ça, non.
La seule chose dont on soit sûr dans ce groupe, c'est que le Cameroun est éliminé. Ça, d'accord.
Bon, je vais vous dire ceux qui sont éliminés. Vous avez le Cameroun qui est éliminé.
Oui, je viens de le dire.
Vous avez l'Espagne dans le groupe B et l'Australie qui sont éliminés, ils ont 0 points.
Alors, l'Angleterre
qu'on
aussi.
Fasse avec 0. Vous avez l'Angleterre dans le groupe D qui est éliminé. Vous avez le Honduras dans le groupe E qui est éliminé. Vous avez dans le groupe G. Alors le Portugal, il a vraiment avec 1 point, très très peu de chance de se qualifier. Une minuscule chance.
Et Didier Deschamps va-t-il faire des changements pour l'équipe mercredi soir contre l'Équateur ?
quelques très légers changements. Trois, quatre joueurs ne seront plus là.
Qui ça, alors?
Ouais, bon, ils sont que des petites blessures. Il faut faire tourner l'équipe.
Par exemple, citez-moi des noms, par exemple.
Des gens qui ne sont pas là.
Écoutez, des noms, moi, je pense que c'est pas franchement utile que je vous donne des noms.
Il est dans la merde. Zidane, il va jouer
Zidane. C'est son anniversaire.
Trois noms de joueurs de foot.
Je pense qu'on est resté là sur une très bonne impression.
Paul, Zidane, il joue ou pas?
Il est remplaçant.
Non, je suis quand même pas complètement abruti.
Et le sélectionneur s'appelle
Deschamps.
Ouais. Écoutez, vous sauverez l'honneur, Paul. Dans un instant, nous allons nous quitter, car ce soir, évidemment, c'est Europe 1 Football Club à partir de 18h avec deux matchs justement importants, Pays-Bas, Chili et Espagne, Australie. Nous, on se retrouve demain à 16h.
Il n'y a pas d'invité ?
Non, Pierre.